Casimir, Georges Baume. 1. Ragagnas est dans les Cévennes, près de Bédarieux, un village composé de fermes, de groupes et parts de maisons. Les gens se rencontrent le dimanche à l'église, là-haut, sur un pic. Dans la vallée, deux fermes se trouvaient voisines, non loin de l'Orbe, celle des Carmes et celle des Rioux. Les propriétés des Carmes formaient presque un domaine. Au contraire, les Rioux ne possédaient maintenant qu'une luzerne et un troupeau de moutons. Depuis quelque temps, il y avait des disputes chez les Carmes. Aucun ne cédait, ni Bernard, ni le papette, si renommé pour ses prouesses de vieux viveur, ni sa femme Sylvie, encore moins Françoune, qui menait ses grands-parents par le bout du nez. Cette fois-ci, plus que jamais, Bernard résistait à sa filleule. « Tu es folle !» s'écriait-il en agitant ses bras de colosse. « Tu es folle ! Épouser Casimir, le plus sot des Rioux que j'ai connu, même en comptant les femmes, l'innocent dont tout le pays se moque ?»« Ça me plaît. Je ne suis pas plus folle que toi, qui as mérité par tes largesses qu'on te prie pour le diable. »« Ça prouve que je ne suis pas précisément une bête. » Et Bernard se rengorgeait, tel qu'un coq en son plumage d'azur et de feu. Sylvie, qui épluchait des amandes au coin du feu, ricana. Les espiègleries de Françoune l'amusaient quand elle touchait au vif le papette. Françoune chantait, glorieuse, en apprêtant le repas. Et Bernard marchait en désarroi, lourdement, les mains sous la blouse. Soudain, il s'arrêta. Les deux femmes, en silence, le regardèrent. « Puisque tu veux épouser ton innocent de Casimir, épouse-le » La mamette, en épiant Françoune, se mit à rire d'un coup sec. Françoune allait et venait, très émue, faisant du chemin inutile, se trompant d'assiettes et de bouteilles. « Ah ça, pichoune, quelle guêpe te pique !» s'exclama Bernard. « Tu ne me remercies même pas ?»«
Si, si, mais... »«
Tu as encore autre chose à me demander ? Pas de l'argent, peut-être ?»«
Voilà, Casimir, moi, je le veux, mais lui ne me veut pas. »
« Il a plus de bon sens que toi. »«
Nous verrons plus tard. En attendant, il faut que tu interviennes, toi, auprès de son père. » »«
Jamais. Rioux, son père, nous a insultés autrefois, et malgré que nous nous parlions, je n'ai jamais oublié. Laisse-moi tranquille. »
Bernard cognait la table de ses poings, frappait les dalles de ses sabots. Sylvie riait, Françoune aussi. Elle savait bien qu'après la tempête, Bernard capitulerait. Le lendemain, Françoune se montra gentil envers Rioux. C'était l'aube, un bredouillement des châtaigniers dans la lumière bleue. Françoune apportait au voisin une poignée d'amandes.
« Goûtez-les, lui dit-elle, avant que nous allions les vendre au marché de Bédarieux. »
Rioux leva sa tête blanche, son long corps qui semblait vieux et épuisé, bien qu'il eût 20 ans de moins que Bernard. Après avoir examiné les amandes, il observait la jeune fille, non sans méfiance.
« N'ayez crainte de vous empoisonner, lui dit-elle. »
Alors, tandis qu'il grignotait le fruit, elle gazouilla, insinuante.
« Et Casimir ? » ?»«
Il est dans la montagne avec le troupeau. »
« Quand vous saurez quelques pâtres montant vers lui, vous lui ferez tenir mon bonjour. »
Telle qu'une alouette, Françoune s'envola vers sa maison. Rioux, à la lisière du domaine, restait abasourdi. Il songea « Casimir, Françoune !» Ces deux noms en bourdonnant réveillèrent en lui des souvenirs de cœur et d'ambition. Casimir, Françoune, l'amour des deux enfants, leur mariage, la fortune revenue à l'improviste, des visions l'éblouirent et toutes les cloches du pays chantèrent dans sa tête, ardentes et gaies. On ne se fréquenta pas davantage les Carmes et les Rioux. Mais Rioux ne cessait d'entretenir sa mère, la brave Léonore, des hardiesses de la fillette. Un mystère planait sur eux depuis l'autre matin. Il fallait attendre.
Attendre qui ?
Casimir, oui, ce pharaon aux allures d'emplâtre, qui, plus habile pourtant que tous les pharaons de Ragagnas ensemble, remettrait en épousant une riche héritière sa maison dans la prospérité de jadis. Léonore, avec sa grosse figure parsemée de boutons comme une haie qui bourgeonne, riait béatement.
« Alors, ils se veulent tous les deux ? Mais oui, ah, ce gredin de Casimir !»
Léonore tremblait de bonheur. Elle s'approcha de son fils et lui souffla dans l'oreille, très bas, pour que les esprits cachés dans les murailles n'entendissent point.
« Dis, si nous faisions descendre notre enfant de la montagne ?»
On réfléchit jusqu'au soir. Enfin, il fut convenu que le premier pâtre gagnant la montagne ferait descendre Casimir.
2.
Françoune apprit que le pharo arriverait le dimanche dans la matinée. Elle se rendit à mi-côte dans une solitude de bois profonde où coulaient des sources, où des feuillets et des ruisseaux disaient leur frémissant langage de jeunesse et d'amour. Sous les branches, le soleil était doux. Françoune s'étendit sur l'herbe et, dissimulée par un bouquet d'aubépines, espéra patiemment les mains jointes. Bientôt, des sonnailles tintèrent. Françoune s'étant levée, aperçut là-haut Casimir à un détour du sentier. Alors, impatiente, heureuse aussi de voir une face humaine parmi les arbres mystérieux, elle appela
« Casimir, par ici !»
Le pâtre s'arrêta, étonné d'entendre dans la montagne une si jolie voix d'enfant.
« Casimir, Casimir !»
Il regardait. En levant la tête, il eut la vision radieuse, dans le nuage d'or du soleil entre les branches, de la Sainte Vierge de l'Église, et, comme Françoune tout à l'heure, il joignit les mains. Tandis qu'il s'avançait, il reconnut la fille des voisins. Alors de nouveau, il s'arrêta, poussant un cri terrible d'effroi. Et vite, il ramena le troupeau par un autre sentier. Casimir était grand et fort, les cheveux crépus, le front beau de silence et de volonté sombre. Françoune courut à lui, hardiment, tandis qu'il frémissait de répugnance et de colère. Mais elle le regarda dans les yeux, plus clair que la source qui murmurait là, tout proche, et lui dit
« Que t'ai-je fait? Tu ne m'aimes donc pas ?
Pourquoi t'aimerais-je ?
Parce que je le veux.
Laisse, va-t'en.
Il faut que tu m'aimes, parce que tu es pauvre et que j'ai le droit de te commander avec mon argent. Je t'aime, je te veux. »
Elle lui prit les mains, les baisa malgré sa résistance. À l'odeur de la femme, le pastourel avait défailli un moment. Brusque, il se révolta, courut, dévalant le sentier avec son troupeau qui ne comprenait pas. Chez lui, haletant, il conta l'aventure.
« Mon Casimir, tu as eu tort !» lui reprocha sa grand-mère Léonore. « Puisque Françoise t'aime, elle nous fera tous riches. »«
Si elle m'aime, c'est qu'elle a un intérêt. »«
Non, répliqua Rioux, un caprice de femme. Tais, écoute !»
Le paysan entraîna son fils dans la cour vers le puits. Là, une fois bien installés l'un près de l'autre, sur un châtaignier mort et tendu contre le fumier, il commença, un peu solennel,
« Vois-tu, quand les Carmes sont venus ici, nous étions riches, nous. La mère de Françoune me voulait. Moi, par dédain d'une famille qui n'était pas issue du pays, je ne la voulus pas. Mais cette coquine aimait à parler des démons, du diable. Je crois qu'elle connaissait leur langage. Ce qu'il y a de sûr, c'est que du jour où je me mariai avec celle qui fut ta mère, celle qui bientôt devait devenir la mère de Françoune me voua une haine sans fin, à moi, à tous les miens, à la terre qui m'appartenait. Elle a tenu son serment de vengeance, ou plutôt le diable qui parlait par sa bouche. Ces gens-là, oui, ne possédaient rien. Eh bien, ils se sont acharnés dans une terre qui, jusqu'à eux, n'avait rien produit, près de nous, et en peu d'années, pendant que nous déclinions à la ruine, nous autres, eux montaient à la richesse en nous narguant. La mère de Françoune est morte depuis longtemps. Eh bien, elle ne m'abandonne pas encore, mon fils. Oui, il faut que tu le saches. Toutes les nuits, quand je dors, dans notre maison bien close, cette créature, sortie de je ne sais où, fille de ce Bernard qui est plus hardi qu'un page de cour, oui, toutes les nuits, la mère de Françoune vient à moi. Je la vois pimpante et dégourdie, et elle me réveille en ricanant. Puis, quand je suis là à l'écouter et que je tremble, elle me tire les jambes et se sauve. Tu comprends? Et
Casimir, terrifié, s'était levé peu à peu, brûlant de quitter cette terre maudite.
« Et tu veux, dit-il, que j'épouse la fille de la femme qui est un démon ?
Si tu es raisonnable, tu m'obéiras.
Je me tuerai plutôt.
Si tu aimes ton foyer, tu épouseras Françoune.
Bienheureux nous sommes qu'elle veuille de toi. Si tu l'épouses, sa mère, qui peut-être n'est pas bien morte, n'osera plus retourner ici la nuit. Et qui sait, peut-être notre fortune tient-elle à ce mariage. »
Casimir, le visage baigné de larmes, s'était reposé sur l'arbre. Son père doucement l'interrogea.
« Pourquoi refuses-tu une fille si riche ?»«
Parce que j'ai peur. »«
Ça te passera. »
Rioux s'éloigna vers la maison en laissant son fils dans la cour désolée où plongeait le soleil de midi. Pendant quelques jours, Rioux et la mamette Léonore respectèrent le silence de Casimir. Ils l'entouraient de prévenances et de gâteries. Casimir ne se rendait pas. Il avait peur. Jamais il ne passait le long du domaine des Carmes. Dès qu'il apercevait Françoune, il fuyait. Plus elle l'appelait, plus il courait. Souvent, on le rencontrait au bord de la rivière. La tête entre les mains, négligeant son ouvrage, il pensait à Françoune, à la morte qu'il n'avait pas connue. L'eau coulait à ses pieds, grondante, hallucinante. Et le courage ne lui venait pas de s'abandonner au flot harmonieux, d'oublier tout, le soleil, la maison, et de mourir comme sa mère. 3. Cependant, deux semaines plus tard, le vieux papette de Françoune tomba dans un précipice de la montagne en poursuivant, disait-on, une de ses chèvres. Le jour de l'enterrement, selon une tradition plusieurs fois séculaire, toute la famille, les amis, les voisins se réunirent à la maison en deuil. La bière était couchée sur un lit de feuillage dans l'écurie, le portail grand ouvert. Des cierges brûlaient alentour, dissipant un moment l'obscurité de la voûte poudreuse où s'exhalait le frais parfum des tonneaux et des foudres. À la porte de la maison, sur une table garnie d'un drap blanc, brûlaient encore des cierges autour d'un crucifix, d'un rameau de laurier et d'un vase de fleurs dans lequel chaque survenant déposait son offrande, de la menue monnaie, des pièces blanches. Aujourd'hui, Françoune ne paraissait plus une paysanne. Elle rayonnait de beauté, d'une poésie étrange, en ses vêtements de deuil. Casimir, en la regardant, eut un frisson de désir. On souleva la bière pendant que les assistants, à genoux devant le portail, communiaient dans la prière. Au retour de l'église lointaine, tout le monde se rangea à la table des funérailles que la famille, par déférence envers le mort, sert d'habitude abondamment. Françoune désigna à Casimir sa place auprès d'elle. C'était, disait-elle, la volonté du mort. Dès qu'il fut assis, elle lui parla discrètement.
« Eh bien, je suis seule désormais, car mamette Sylvie ne compte guère, le diable est enterré. Je te veux toujours, tu sais, tu te rappelles ?»«
Laisse.
Tu réfléchiras. »
On mangeait, on buvait. Un bruit de fête s'accentuait, des rires étouffés, même quelques embrassades en cachette. Sylvie, au bout de la table, avec des vieux, s'essuyait les paupières de temps à autre, puis se léchait les doigts qu'elle trempait dans la sauce. Françoune, à la fin du repas, se leva la première et, dans la confusion du désordre, elle embrassa Casimir. Celui-ci, honteux, recula. Mais la joie, comme un bon coup de vin, le secoua si fort qu'il éclata de rire. Le lendemain, Casimir s'ennuya dans les champs. Chaque jour, au moindre prétexte, il allait chez Françoune. On causait un peu et Françoune lui touchait les joues bien gentiment. Les fiançailles se conclurent toutes seules. On maria les deux voisins après les vendanges. Ils couchèrent dans la vaste chambre qu'avait abandonnée Bernard, le vieux diable, au-dessus de la cuisine. Les premiers jours furent heureux. Françoune paraissait ne songer qu'à l'amour. Elle songeait aussi au travail. Douée d'une ambition profonde, d'une rapacité méticuleuse, si elle avait pris Casimir, c'était pour avoir un homme facile à dominer, un rude tâcheron qu'elle emploierait sans le payer et qui, par son labeur, devait la rendre la plus fière du village. Casimir parlait, riait toujours de bonne humeur. Quand on entreprit les labours, Françoune interdit soudain tous les bavardages. Le pastourel de Naguère commença de se méfier. Et une fois qu'il se trouvait seul au bord de la rivière, en train de couper des arbres, il murmura involontairement « J'ai peur !» Françoune, tout à coup, était apparue. Furieuse, elle s'élança contre lui.
Crois-tu qu'on habite la terre pour s'amuser? Travaille, Casimir.
Je travaille, dit-il résigné. Pas moins, quand on est là, on pourrait bien se reposer.
Tu te reposeras plus tard, comme tout le monde, quand tu seras mort.
Dès lors, Casimir trembla. Françoune, comme sa mère, n'était qu'un démon, voilà tout. Elle lui rationna le vin, le priva de fumer. Il ne révélait point au dehors ses souffrances, de crainte de provoquer d'affreuses représailles, car il redoutait la mort. La nuit, il ne dormait guère. Ou bien, quand il était parvenu à s'endormir, des cauchemars l'enveloppaient et une grande forme blanche apparaissait au bord de son lit. C'est donc à lui maintenant que venait la mère de Françoune. Elle apparaissait brusque, avec des yeux rouges, une bêche sur l'épaule, et il tressaillait de peur en ouvrant ses larges yeux. Ce démon le voulait dans son tombeau. Misère !
Françoune, auprès de lui, dormait comme une souche. Mais il avait bien garde de la réveiller pour lui dire ses plaintes. 4. Un matin, pourtant, il se plaignit à son père. « Bah ! Ricana celui-ci. Moi, je ne sens plus rien maintenant. Je dors si tranquille. »«
Alors, tu te moques de moi ?
Ça te passera à toi parce que tu es jeune. »
Casimir était donc seul au monde, condamné à vivre dans une maison hantée. Ses malheurs ne l'étonnaient point, il les avait prévus. Que tenter contre les démons du diable ? Il s'humilia. Une nuit, qu'entendant une rumeur de chaîne dans la cuisine, il s'était levé. Françoune, au moment où il prenait la pioche, s'éveilla.
« Où vas-tu, Casimir ?»«
Ouais, c'est toi, Françoune. »
« Oui, parbleu. Est-ce que tu veux, en faisant tant de bruit, imiter le loup-garou pour effrayer mamette Sylvie ?»
« Non, balbutia-t-il, j'allais travailler. »«
C'est très bien, vas-y. »
Casimir se perdit en tâtonnant dans les ténèbres. Les hurlements des loups dans la montagne, les grondements du vent à travers les châtaigniers superbes l'épouvantaient. Il courut au hasard. Quand il fut arrivé loin, très loin de son pays, il tomba sur une pierre et se mit à pleurer. Françoune, dans sa chambre, riait et chantonnait, s'imaginant que Casimir travaillait le domaine et qu'il allait prendre l'habitude de travailler pendant la nuit. Quelle précieuse acquisition elle avait faite! Dès que la nuit se dissipa, dès que la campagne, comme une vieille, commença de grisonner, Casimir poussa un soupir de délivrance. Les mains jointes, il remercia la bonne lumière du soleil. Ensuite, attiré par l'odeur de la patrie, il marcha en des chemins, des sentiers inconnus. Seulement, il avait perdu sa pioche. Quand il rentra chez lui, ce fut une scène de lamentations et de gronderies.
« Je ne veux plus que tu sortes la nuit !» s'écria Françoune. « Te voilà en désordre, tout déchiré. Ouh ! Mendiant, va demander ton pain sur les routes, va !»«
Ah, mais Françoune !
Quoi, qu'as-tu à dire, peut-être ?»
Je dis que c'est fini.
Ouais, tu te révoltes?
Je ne me révolte pas, j'use de mon autorité.
Tais-toi, tu m'as pris trop longtemps pour un égo parce que j'étais trop pacifique.
Casimir avait souffert pique la mort dans la campagne, sous les ténèbres, parce que la patrie lui manquait si loin. Son esprit d'enfant, en même temps que l'ombre, s'était dissipé. Il avait vu pour la première fois la nature avec son cœur. Il avait trouvé la vie agréable et belle, et il sentait sa puissance d'homme et sa beauté au moins égale à celle des plantes que le soleil fait resplendir. À présent, fort de sa conscience, il reconnaissait son droit d'époux, même ses privilèges.
« Je suis le maître, Françoune, ne menace plus ou je te frapperai !»
Instantanément, devant la volonté de l'homme, Françoune s'apaisa.
« Ah ! Reprit-il, de plus en plus satisfait de lui-même. S'il faut être dur pour se faire respecter, ce ne sera pas difficile. »«
Je ne t'aimerai plus.
Tu m'aimeras d'une manière nouvelle et ça ira mieux, au moins pour moi. »«
Tais, regarde, pour commencer... »
Brusquement, il embrassa.
Bien qu'elle se défendît, il embrassa de nouveau. La mamette Sylvie riait dans son coin de cheminée.
« Je crois, dit-elle, que Casimir a tué le diable cette nuit. Il n'a plus peur. »«
Nous verrons, » répondit Françoune qui fronçait les sourcils. Casimir, malgré sa hardiesse, frissonna le soir quand l'ombre vint troubler le ciel et la terre. Pendant qu'il dormait, la rumeur des chaînes agita confusément la cuisine, et la grande forme blanche, apparaissant dans la chambre, s'en alla tirer les jambes de Casimir. Mais cette fois, emporté par la colère, il cria, tempêta, hurla, tel qu'un vrai loup. Françoune se blottit contre lui. « Ah ! S'écria-t-il, c'est ton tour d'avoir peur ?
J'ai peur de toi !»
Il la repoussa, et s'habillant à la hâte, son fusil en main, il descendit à la cuisine, d'un pas lourd qui faisait retentir la maison. Il sortit, courageux. Dans le jardin, deux ombres rôdaient. « Attends un peu, grommela Casimir, si c'est le diable avec sa femme, je vais te leur apprendre à venir me voler. » Les deux ombres marchaient courbées, si occupées dans leur besogne de maraude qu'elles n'entendaient rien. Casimir épaulait déjà quand une des deux ombres se détourna vers lui. « Oh ! Gémit-il. Oh ! C'est vous autres ?» Il avait reconnu son père, le grand Rioux à la barbe de bouc, et sa mamette, la brave Léonore.
« Oh ! C'est vous qui venez me voler ?
Nous reprenons notre bien.
En voilà des histoires.
À présent que tu es le maître de la maison du diable, nous ne risquons rien.
Allez-vous-en ou je tire.
On voit que tu as épousé un démon, toi aussi. » Les deux ombres, prudemment, s'éloignèrent du domaine. Désormais, on respecta Casimir. Françoune, prévenant ses ordres, se dévouait à lui avec tendresse. Et un dimanche, qu'on avait bu du muscat de Bédarieux, Casimir, de bonne foi peut-être, s'exclama, en un rire pareil à celui du vieux Bernard, « Il est bien possible que je sois devenu le diable. Tout le monde me craint. »
Le printemps arriva, mais tout fleurit. Un enfant naquit dans la maison hantée. Les vieilles de Ragagnard vinrent ensemble le voir. Sylvie l'avait exposé dans la cour, devant le portail, où l'on chanta des cantiques d'église, des chansons du pays. Françoune embrassait souvent Casimir. Pour le baptême, toutes les cloches sonnèrent là-haut, sur le pic. Le soir, après une journée de noces, Rioux et Léonore retournèrent chez les Carmes. Devant leur porte, les jeunes époux veillaient, au frais de la nuit, tandis que dans la cuisine, mamette Sylvie berçait l'enfant. Rioux, un peu humilié devant son fils si brusquement anobli par la fortune, ne savait trop que dire. La lune brillait, ronde et dorée, dans le ciel bleu, presque dépourvu d'étoiles.
« Il me semble, fit Léonore, que la lune nous rit à tous. »«
C'est probable, répliqua Casimir Gouailleur. Elle nous annonce du beau temps pour que la terre soit heureuse. »
Françoune souriait sans trop savoir pourquoi, en tremblant un peu, à la pensée que Casimir aurait, à la moindre incartade, le courage de la battre. Aussi, pour le flatter, elle lui baisait les mains en lui faisant contempler au ciel bleu la lune blonde et dorée, la lune de miel.